Radio Django. Culture.
Ce soir dans Cultiver Lausanne, Anna Maria, vous inaugurez une mini-série avec trois épisodes intitulés « Des raisons d'espérer ».
En effet, c'est décembre, il fait froid, il fait gris. Ce soir, il fait même humide. Les nouvelles économiques, environnementales, sociales ne sont guère joyeuses. La course aux cadeaux de Noël est ouverte, et pour ceux qui peuvent se le permettre, tandis que les autres restent sur la touche. Et au cœur de ce tableau éclairé à la lueur des guirlandes de Noël, j'avais besoin de retrouver des raisons d'espérer. Alors, comme on parle ici de culture, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'acteurs culturels n'ayant aucune actualité particulière, simplement pour les entendre sur leurs raisons d'espérer à eux. Qu'est-ce qui les fait continuer, malgré tout, malgré les difficultés, malgré le monde qui les entoure ?
Et alors, pour ce premier rendez-vous, vous avez rencontré la comédienne et auteure française Audrey Vernon.
Oui, ses spectacles sont des seuls en scène économiques où elle parle des milliardaires autant que de Karl Marx et de la naissance du capital. Une comédienne lucide, engagée, drôle, qui malgré tout ce qu'elle voit et dénonce, a encore de l'espoir. Elle nous parle de ceux qui luttent, de la disparition des espèces animales, de son engagement sur scène. Elle nous parle aussi de consommation et d'une foule d'autres choses. On l'écoute.
Vu ta sensibilité à ce qui se passe dans le monde, comment tu gardes espoir dans ce monde où on voit tellement d'injustices, d'intolérances, d'abus de toutes sortes, de maltraitances de toutes sortes? Qu'est-ce qui fait garder l'espoir?
L'espoir, c'est les gens qui luttent. Donc je me dis qu'il y a quand même des gens qui sont attachés à ce monde, à ce que ce monde reste vivant. Donc ces gens-là, ils me donnent espoir parce que je me dis qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à être attachés au monde que le peu de capitalistes qui détruisent la planète. J'ai l'impression qu'ils sont très peu nombreux, mais ils sont très bien organisés. Donc c'est vrai que les gens qui luttent, que ce soit Jean Ziegler, Derek Jensen aux États-Unis, ou Marx à une autre époque, mais voilà, tous ces gens qui essaient de lutter contre les puissances monumentales que sont les États, la guerre, les multinationales, voilà, c'est ces êtres humains-là qui trouvent des façons de lutter différentes qui me donnent confiance. C'est eux qui m'inspirent et qui me motivent et qui, quand je suis découragée, me remontent le moral.
Si tu devais dire à un enfant aujourd'hui, voilà le monde que je t'offre.
Ah ben c'est rigolo, c'est le sujet de mon prochain spectacle. Bravo. Oh. Ça s'appelle Chair à canon. Et c'est une femme enceinte qui parle à son enfant qui va naître et qui lui explique le monde dans lequel il va naître. Et c'est exactement ça. Donc tu as tout à fait bien deviné mes préoccupations actuelles. C'est rigolo. C'est exactement ça. C'est ce que je suis en train d'écrire. Et
un petit peu plus, si c'est un peu trop tôt?
Non, bah pour l'instant, je suis beaucoup dans des choses de constat. Alors par exemple, 90% des grands poissons ont disparu. Donc les baleines, les dauphins, etc. Les saumons sont en train de disparaître. Les ours polaires sont en train de disparaître. Donc pour l'instant, je fais un peu un inventaire de tout ce qui est en train de disparaître. Et j'essaie de me rendre compte de l'ampleur de la destruction qui est toute récente. C'est par exemple le plastique qui est en train de détruire les océans. C'est une invention qui a 70 ans. C'est vraiment rien, quoi. À l'échelle de l'histoire humaine, les êtres humains, on est là depuis à peu près 1,5 million d'années. Dans notre forme actuelle, c'est à peu près 200 000 ans. Et donc le plastique, c'est ridicule. Et pourtant, ça va peut-être détruire les océans et la vie dans les océans. Donc c'est ça en ce moment que je suis en train de faire. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous détruit concrètement. Et voilà. Pour l'instant, c'est beaucoup de constats, beaucoup de paraphrases d'auteurs que je découvre, comme Pierre Clastre, un ethnologue anarchiste. Toujours beaucoup de Derek Jensen, qui est vraiment une personnalité que j'admire, que j'adore. J'adore comment il écrit. Et ouais, pour l'instant, c'est beaucoup de la paraphrase. Donc pour l'instant, le spectacle, il n'existe pas encore et la forme définitive, elle n'existe pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, je serais incapable de dire à un enfant voilà le monde dans lequel tu vas naître et voilà les raisons d'espérer. Enfin, je ne saurais pas pour l'instant comment lui dire ça, mais en tout cas, le travail que je suis en train de faire, c'est justement essayer de synthétiser tout ça, de le mettre au clair dans ma tête, et de pouvoir l'exprimer de façon drôle et de façon joyeuse. C'est sûr que le monde, il est compliqué, il est atroce, il est mortifère, il est criminel et tout. Mais on peut faire mieux, c'est ça qui est chouette. Donc effectivement, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de tristesse, parce que à partir du moment où on peut faire mieux, j'espère qu'on va faire mieux. Et je me dis, mais dans 2 ans, c'est réglé cette histoire de réchauffement climatique. Enfin, dans ma tête, c'est comme ça.
Ça pourrait l'être.
Ça pourrait l'être, ouais. Bah, c'est sûr, si on arrêtait immédiatement l'avion, la voiture, les bateaux, et qu'on réfléchissait, ça pourrait l'être.
Quand tu crées, quand tu écris, tu es seule?
Ça dépend. Là, sur Chair à Canon, je travaille avec un universitaire qui m'apporte pas mal de documentation sur la guerre, notamment sur les États. Je travaille aussi avec Le Partage, qui est un site internet qui est animé par un garçon qui s'appelle Nicolas Cazot. Et je suis aussi avec les Éditions Libres, qui sont une maison d'édition qui me fournit pas mal de matériel. Voilà, je suis en communication avec Derek Jensen par Skype et tout ça. Je parle beaucoup avec Hervé Kempf de Reporter aussi. Donc.
Est-ce que tu serais du genre à aller t'engager sur le terrain, à aller faire des manifestations? Est-ce que tu rejoins, est-ce que tu crois à ces mouvements de rassemblement comme ça? Il y a une nuit debout, maintenant il y a les gilets jaunes, il y a différentes manifestations, les journées pour le climat. Enfin, est-ce que ces grands rassemblements, c'est quelque chose auquel...
Ouais, mais je trouve que c'est important, mais maintenant, malheureusement, j'ai l'impression que les gouvernements, ils s'en foutent. C'est-à-dire, à moins de faire sauter le siège social de Total, enfin, je veux dire, et ça, c'est illégal. Je le dis quand même, sinon, je vais me faire gronder. Mais voilà, non, mais je pense que... Non, malheureusement, les manifestations, ça sert à rien. Je veux dire, on fait des manifestations contre Apple, attaque, arrête pas de faire des manifestations pour rappeler qu'Apple ne paye pas ses impôts, etc. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Non, malheureusement. C'est-à-dire que là, il y a plein de rassemblements pour le climat, il y a plein de manifestations. Est-ce que les choses ont commencé à bouger? Est-ce que les émissions ont commencé à stagner ou à diminuer? Non, clairement non. Ça continue à monter en flèche, à être exponentiel. Donc ce mode d'action a montré son inefficacité totale.
Et qu'est-ce qui te semblerait efficace aujourd'hui?
Le sabotage, la destruction de tout ce qui détruit la planète. Le sabotage, pour l'instant, c'est illégal, mais dans les années 40, le sabotage était aussi illégal, et pourtant ça a permis de faire basculer des choses. Enfin, pour moi, la destruction de biens matériels, c'est pas de la violence, quoi. Donc là, actuellement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont victimes du réchauffement climatique, victimes des multinationales. Il y a des gens en Afrique qui n'ont plus accès à l'eau potable, à leurs terres. Mais le vol des terres arables, par exemple, quand on commence à s'y intéresser un tout petit peu, dans le monde, c'est gigantesque. Les multinationales s'accaparent les terres nourricières de... Et tout ça avec la complicité des États. Et donc, on se dit, mais comment faire pour les arrêter? Parce qu'ils privent les populations de leurs moyens de subsistance. Et ça, c'est vrai que... C'est très curieux. Attaquer le capitalisme, c'est considéré comme un crime. Mais par contre, priver des gens de leur terre, c'est considéré comme normal parce qu'ils ont la loi de leur côté. Mais ces lois, elles sont... Mais malheureusement, les médias ne le disent pas avec la même régularité que la publicité nous répète que manger du Nutella, c'est super. C'est-à-dire que les médias ne nous disent pas à chaque fois qu'il y a une publicité pour le Nutella avec la même fréquence, la même régularité, le même temps. Attention, le Nutella prive les populations locales de leur... moyens de subsistance, ça tue les animaux, ça tue la biodiversité, etc. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a une pub pour un produit comme ça, qu'il y ait à peu près le même temps qui soit accordé aux gens qui sont victimes de ce produit. C'est absurde. On fait des émissions sur le réchauffement climatique. Là, hier soir, il y avait encore une émission de Nicolas Hulot sur le réchauffement, et entrecoupé de publicités pour des voitures. puis où est la cohérence ?
Raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter.
On est élevé depuis notre enfance dans le respect du pouvoir, le respect des multinationales, le respect de la hiérarchie. Et donc on a quand même confiance, même si on sait qu'il y a des abus, on a quand même globalement confiance dans les entreprises, dans l'État. On a quand même l'impression que l'État va nous protéger, etc., ce qui est complètement faux. Moi, je vois dans ma famille, par exemple, quand ils achètent des produits au supermarché et que je leur dis « mais attention, dans ces produits, il y a des substances toxiques », ils me disent « mais c'est pas possible ». Enfin, je veux dire, ils n'arrivent pas à se méfier, quoi. Ils disent « mais non, si c'est vendu en France et tout, ça peut pas être mauvais, etc. » Oui, il y a une grande confiance dans l'État. Mais d'ailleurs, c'est difficile de... Là, je vois, en écrivant ce nouveau spectacle, je suis en train de questionner l'État, l'école, enfin plein de choses. Et c'est pas évident. Ou par exemple, la consommation. La consommation, aujourd'hui, c'est la seule chose qui nous définit. C'est-à-dire ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas. On est quand même, grosso modo, hein, des populations de consommateurs. Et les choix, c'est consommer ou pas consommer. Là, c'est le Black Friday, puis après, il va y avoir Noël, puis Pâques, etc. C'est que des trucs où la fête, c'est la consommation. Et si on refuse la consommation, finalement, c'est un peu triste parce qu'on s'exclut de la fête, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, je vois, par exemple, que en ce moment, je suis dans un truc de... je refuse d'acheter des choses neuves. Et dans ma famille, parfois, on m'offre des choses neuves et je les refuse de façon assez violente. Et c'est triste parce que ça part d'un bon sentiment de la part des gens qui sont autour de moi. Et finalement, ça me fait de la peine parce que je me dis, ce système, en fait, me prive de la joie, des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, tous les cadeaux, quasiment, sont des cadeaux qui viennent de l'exploitation. Donc, c'est pas la même chose. Par exemple, j'achète beaucoup de choses en fripe. Et je vois, il y a 40 ans, les vêtements pour enfants étaient fabriqués en France. Et donc, on imagine que c'était pas la même exploitation que là, au Bangladesh. Et donc aujourd'hui, cette façon de consommer, de produire, fait que tout ce qu'on achète est lié à de l'exploitation. Ça vient de Chine, donc ça passe aussi par des bateaux qui détruisent la planète. Et donc finalement, les cadeaux, moi j'ai plus de joie à recevoir des choses, des cadeaux. Et finalement, c'est pas sympa parce que je prive aussi mes proches du plaisir de m'offrir des cadeaux. Sauf les chocolats suisses, évidemment.
C'est le théâtre, un de tes enseignants.
Ouais.
T'as dit, tu ne montes sur scène que si tu as quelque chose à dire.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
C'est vrai,
ouais. C'était quoi la phrase déjà ?
On ne monte pas sur scène pour ne rien dire. Je crois que c'est ça. Stéphane Auvray-Norrois, il s'appelle.
Est-ce que c'est cet homme qui t'a encouragé à aller dans cette voie où tu dénonces, où tu montes sur scène pour dénoncer ?
En fait, j'ai mis du temps à comprendre parce qu'il nous disait tout le temps « soyez subversifs, on monte pas sur scène après la Shoah comme on montait sur scène avant la Shoah. » Il faut toujours que vous ayez conscience des choses qui se sont passées dans le monde et tout ça. Donc, il nous répétait tout le temps ça « soyez subversifs, etc. » Moi, je comprenais pas trop parce que moi, je voulais juste être comédienne parce que ça, j'aimais jouer et tout ça. Je voulais juste être jolie, minauder sur scène, enfin, genre être comédienne normale, quoi. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'il me disait. En fait, moi, je pense que ça a dû infuser quand même. Mais non, au début, je voulais pas du tout dénoncer quoi que ce soit. Et puis après, j'ai commencé à travailler à Canal+, j'ai été confrontée à l'actualité et à voir les mensonges dans les médias. Et le fait que j'avais de la parole publique aussi, et ça a correspondu avec les émeutes de banlieue en 2005, quand les enfants sont morts dans le transformateur et que les médias ont dit que c'était des délinquants, etc. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a une partie de la population française qui, comme moyen de rétablir la vérité, n'a que de brûler ses propres voitures. Et moi, j'ai la chance de pouvoir parler, etc. Et donc, en fait, je me suis sentie obligée de pas dire n'importe quoi et puis de dire des choses utiles et importantes et des choses pas forcément dites partout quoi. Voilà, j'ai essayé de pas abreuver le monde de paroles vaines. Après, j'ai peut-être pas tout le temps réussi et puis peut-être que c'est vain ce que je dis, mais en tout cas, j'essaye de beaucoup travailler en amont pour au moins apporter des choses utiles et neuves, quoi. Enfin, en tout cas, dire des choses qui m'intéressent et qui, j'espère, intéresseront les gens. Voilà. Enfin, en tout cas, je travaille avant de monter sur scène. Voilà.
Comment on vit sa vie de comédienne et de comédienne engagée, pour le coup, après avoir été évincée d'une radio comme France Inter?
Alors, officiellement, j'ai pas été évincée. Officiellement, il y avait plus de place. Donc, je peux pas dire que j'ai été évincée.
Vous n'avez pas été évincée en raison de vos idées ou votre discours?
En tout cas, pas officiellement. Après, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on me l'a jamais dit. Bah, c'est sûr, j'ai été convoquée suite à une chronique sur la mort d'un cheminot. La chronique a été enlevée du site internet, etc. C'est vrai que cette chronique-là, elle n'a pas plu à la direction de la SNCF, puis à la direction de France Inter. Après, je ne fais pas de lien de cause à effet, j'en sais rien. Peut-être.
Ça vous dirait de refaire, vous étiez à Canal,
ouais.
De retourner sur une de ces grandes chaînes.
Alors Canal, maintenant que ça appartient à Bolloré, je préférerais manger un rat. Canal Plus, ça a été vraiment un moment magnifique que j'ai passé. J'ai passé 10 ans et c'était génial parce que ça m'a donné la liberté financière d'écrire tous ces spectacles. Ça m'a beaucoup ouverte sur l'actualité aussi, sur le monde. C'est assez, mais c'est ce que j'ai éprouvé à France Inter. C'est génial. C'est génial d'être aussi exposée et puis en même temps, ça demande beaucoup de travail. Et...
C'est pas d'actualité.
Non, pour l'instant, je suis très contente d'avoir du temps pour écrire et puis réfléchir et puis pas tout de suite être imprimée, quoi. Enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir du temps et de pouvoir mûrir ma pensée et puis mûrir mes idées, mon travail, la forme que ça va avoir. Je pense que si j'étais sous presse tous les jours et que je devais produire, j'aurais pas le temps, quoi, de réfléchir. Mais après, non, mais c'est sûr, j'adorerais à terme revenir et puis peut-être même faire un truc qui n'a rien à voir. Un pur divertissement, j'adorerais. Mais bon, d'abord, il faut que je sauve la planète. Après, je pourrais faire du divertissement.
À peine aperçue, voilà qu'elle s'en va. La seule qui savait ce que je ne sais pas. Les autos qui glissent effacent chaque fois encore un peu plus la trace de ses pas. Chercher dans la ville autour des néons, acheter des annuaires et guetter son nom le long des avenues. Je parle tout bas à des réverbères qui ne me répondent pas. Au-dessus des toits, c'est drôle comme on entend parfois monter de la rue ces mots de tristesse et de joie. Le monde s'écroule, mais le monde, c'est quoi? Juste une grosse boule qui roule sous nos pas. La terre est ronde, mais la terre, c'est quoi? Juste une seconde qui n'en finit pas. Juste une seconde qui n'en finit pas. Lassé des hivers,
Julien Père, Julien Père, le monde s'écroule pour clore cette rencontre avec Audrey Vernon qui est venue au CPO à Lausanne la semaine dernière pour inaugurer, donc Audrey Vernon évidemment, pour inaugurer la première de cette mini-série des Raisons d'espérer. Une série à retrouver sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, ce sera Vigous à cette même place de cette rubrique des Raisons d'espérer avec toi, Anna-Maria. Une bonne soirée, merci beaucoup.